Aujourd'hui, Guillaume, nous allons parler d'un sujet un peu particulier, et je pense même qu'il faudrait peut-être baisser la voix, parce que celui dont nous allons parler est peut-être là à nous écouter et risquerait de se manifester. Je plaisante, bien entendu, nous pouvons faire l'un et l'autre face à ce monsieur qui porte plusieurs noms, qui a une identité énorme, une carte de visite terrible. Hein? C'est celui qui divise, c'est celui qui désunit, c'est l'adversaire, c'est Asmodée, j'en saute, hein? C'est Belbézude, c'est Légion, ça veut dire qu'il doit avoir plusieurs visages pour s'appeler Légion, c'est le cornu, le pied fourchu, le démon, Méphistophélès, l'accusateur dans le sens de procureur, l'ange révolté qui voulait dominer les hommes et prendre la place de Dieu, celui qui a menti à Ève et qui a provoqué la chute, le prince des ténèbres, le prince du vent, Satan, et bien entendu encore d'autres. Et quand je dis diantre, ben je ne sais pas, mais j'invoque le diable. Alors nous allons parler du diable. Le diable, c'est toujours classique, on pense que c'est évidemment l'esprit du mal. Alors le problème, c'est de savoir si c'est une personne, si c'est un esprit. Comment peut-il agir? D'où arrive-t-il? Qui a-t-il été créé par Dieu? Mais alors, je vais se poser la question, s'il a été créé par Dieu, il a dû être créé bon? Et que s'est-il passé à ce niveau-là? Et tout le long de notre entretien, il faudra évidemment cerner ce personnage, voir son action, le pourquoi, comment il agit, et puis comment surtout on peut se défendre. Et il interpelle effectivement, donc, par son importance, toute l'humanité depuis toujours, parce qu'il fait l'objet de tableaux, on le représente d'une façon affreuse, un bouc, un loup, un monstre quelconque, il a des couleurs qui sont à lui. Je vous signale au passage, par exemple, que pendant longtemps, les rayures, en principe rouge et verte ou jaune, c'était l'habit du diable. Hein? Et puis dans le folklore, on le voit toujours, en général dans le folklore, on le brûle à la fin et on est bien content. Alors, ensuite, je crois qu'il serait bon de reprendre des citations de l'Évangile, parmi Jean, Marc, Luc et Matthieu, disons, et voir et commenter les citations où il y a le diable, parce que parfois c'est quand même un peu difficile à saisir. Alors, ma première question que je pose tout de suite maintenant, eh bien, ce fils de lumière, au départ, comment est-il devenu mauvais?
Alors d'abord, je voudrais préciser juste une chose dans notre démarche, c'est que nous allons respecter le diable. Nous allons en parler de manière ouverte, avec un enregistrement, donc c'est quand même là pour que ça soit entendu, connu. Et donc ce que nous allons dire, ce n'est pas ni injurieux, ni critique, mais c'est factuel. Et en plus de ça, c'est ce qu'en dit la Bible.
Oui, quelle est la Bible qui va nous apporter une solution? Mais
Voilà.
là, je ne suis pas surpris de votre réaction, mais en fait, moi, j'ai démarré par une plaisanterie en disant, on va en parler à voix basse, mais en fait, vous me rejoignez presque tout en étant sérieux.
C'est ça.
Hein?
C'est ça. On ne se moque pas des dignités, parce que les dignités sont puissantes. La Bible parle de ceux qui injurient les dignités. Et dans le monde invisible, il y a des esprits qui sont très puissants et qui finalement vont aller dans le sens des dignités en les injuriant et en faisant que finalement ils en recevront du mal. Voilà, donc il faut faire attention et il ne faut pas tomber dans ce que la Bible appelle le piège du diable, qui est l'orgueil. On trouve ça en 1 Timothée 3, à l'égard de ceux qui sont nouvellement convertis et qui pensent que grâce à
Ce
la
n'est pas
puissance de
innocent.
Dieu, voilà, c'est
Le
jamais
diable n'est
innocent.
pas innocent.
Par exemple, dans le livre des Actes, au chapitre 19, on a quelqu'un qui voulait imiter Paul et qui voulait chasser les démons au nom de Jésus. Alors le démon lui a dit, ben, je connais Jésus. Je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Et ce passage d'Acte 19 dit que il a été violent, le démon, contre cet homme-là, il l'a frappé, et que cet homme-là s'en est allé tout nu. Et donc on voit comme finalement notre rapport avec le monde invisible est un rapport complexe, dans lequel certaines choses nous sont données, mais pas toutes. On peut répondre à certaines questions, mais pas à toutes. Par exemple, la question que vous posez, pourquoi Dieu a-t-il créé le diable ? Eh bien, la Bible ne donne pas de réponse à cette question. Elle montre que le diable a été créé. On trouve ça à propos de cet astre brillant dont il y a deux descriptions, une en Ésaïe 14 et une en Ézéchiel 28. Et en Ézéchiel 28, il est dit que tu étais un chérubin, donc un ange, qui couvrait, qui gardait, qui protégeait. Et il est dit, au jour où tu as été créé, en toi se trouvait le riche travail des luttes et des tambourins. Donc Dieu a créé quelque chose, Dieu a créé ses esprits, Dieu a créé le monde invisible, mais il ne dit pas pourquoi il l'a créé. Par contre, dans ce qu'on va voir maintenant, on va peut-être, je pense, à la fin de l'enregistrement, avoir une petite idée sur le pourquoi, et je vais la dire tout de suite, comme ça, on l'étayera au fur et à mesure. Je pense que, de la même manière que le bien n'existe pas sans le mal, l'amour n'existe pas.
Il faut un moyen de comparaison.
Voilà, l'amour n'existe pas sans l'indifférence. La joie n'existe pas sans la tristesse. Et prenons un exemple tout concret, tout simple, pour que les gens qui nous écoutent le comprennent bien. Quand on est joyeux parce que avant on a été moins joyeux. Si notre joie était toujours la même, on connaîtrait pas la joie parce que finalement on ne le remarquerait même pas. Et la joie se définit aussi par l'absence de joie. La justice se définit aussi par l'injustice, la sérénité par la fébrilité, etc. Et le bien se définit aussi par le mal. Et quand Dieu est avec Adam et Ève en Éden, il leur dit de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu connaît le mal, mais Dieu ne fait pas mal. Et donc, je crois que le bien et le mal sont des choses qui coexistent. Et de la même manière, la puissance spirituelle vraie, juste, constructive existe, et la puissance spirituelle fausse, injuste et destructive existe aussi. En quelque sorte, Dieu l'a créé parce qu'il est normal qu'il y ait le mal quand il y a le bien, et donc nous avons finalement, nous, l'humain, le choix entre être en connexion avec ce qui est vrai ou ce qui est faux, ce qui est spirituellement juste ou injuste, ce qui est spirituellement de Dieu ou ce qui est spirituellement pas de Dieu.
Alors, c'est vrai que je suis un peu surpris par votre introduction sur que Dieu a créé Satan comme un autre ange, en fait, c'est ça. Mais qu'on n'explique pas, disons, le mal. Mais en fait, quand vous dites et que vous rappelez que dans l'Éden, il y avait évidemment l'arbre du bien et du mal, on en est au même point, là, à la même interrogation. Que ça concerne le diable, que ça concerne le mal et le bien qui se retrouvent dans l'arbre.
Oui, c'est-à-dire, pourquoi Dieu a-t-il créé cet arbre de la connaissance du bien et du mal ? Je pense que c'est parce que l'homme devait accéder à la connaissance du bien et du mal. Mais si l'homme ne devait pas manger du fruit de l'arbre, c'est peut-être parce que Dieu, un jour, l'aurait amené à comprendre ce qu'il est, à comprendre peut-être qu'il est mauvais. C'est comme aujourd'hui, on a compris qu'il ne faut pas manger des amanites phalloïdes ou bien du mercure, par exemple.
Oui, bien sûr. Alors, évidemment, quand on le voit et qu'on reste un peu à la superficie, on est un peu déçu. On se dit, mais Dieu, donc, il n'est pas aussi puissant que ça. Il s'est laissé avoir. Il a laissé échapper un ange qui est devenu mauvais et qui le combat partout et sans arrêt et depuis toujours. Et ça, dans les esprits, ça reste, ça marque.
La Bible présente Dieu comme étant absolument tout-puissant. Alors, soit on dit Dieu s'est fait avoir, oui. Et à ce compte-là, on va contre ce message. Soit on dit Dieu ne s'est pas fait avoir, et à ce compte-là, il faut envisager Dieu comme ayant créé un esprit dont il savait à l'avance qu'il allait se révolter contre lui.
Donc, en fait, Dieu est plus puissant que ce que l'on croit. Il savait ce qu'il faisait et s'est inscrit dans son plan.
Absolument.
Voilà.
Il y a un proverbe qui dit « Le méchant ou le mal fait une œuvre qui le trompe. » Et je pense que de manière générale, Satan fait une œuvre qui le trompe. Et le mal que Satan fait, en réalité, est au service du bien que Dieu veut faire. Mais Je pense que, pour faire très court, quand Satan fait mal, ce n'est pas... Satan fait mal parce que l'homme, finalement, désire avoir accès au mal. Et de fait, l'homme a accès au mal. Mais ce n'est pas Dieu qui lui aura fait mal, c'est Satan.
Oui.
Donc Satan est utile parce que l'homme, dans sa liberté, aura voulu avoir accès au mal. Et de ce fait, il pourra l'avoir. Par exemple, dans notre société, ce qui est mal, c'est... l'apparence, le culte de l'apparence, c'est le mensonge, c'est l'exercice du pouvoir dans son côté pervers, c'est tout un ensemble de choses, l'esclavage par exemple, tout un ensemble de choses que Dieu n'a pas voulu, mais auxquelles l'homme accède, et pour y accéder, il a recours à une puissance, directement ou indirectement. Je ne dis pas que tous ceux qui font ça aient recours directement au diable.
Oui.
Mais quelque part, c'est quand même l'enseignement du diable. La Bible parle en 2 Corinthiens 4, 3 de ceux qui sont aveuglés, dont les pensées sont aveuglées par le diable.
Oui, alors, pour rester simple, hein, est-ce qu'à la limite, on pourrait comparer, d'assez loin, mais enfin, le faire quand même, disons, la présence de Satan et de la souffrance. On l'a dit, on l'a redit dans différents enregistrements, que la souffrance nous permet de prendre conscience de certaines choses, que c'est un signal et que c'est à nous à réagir à cette souffrance et de se retourner et de retrouver Dieu. Alors, en fait, est-ce que Satan n'aurait pas le même rôle ?
Alors, on va dire que le rapport entre Satan et la souffrance est un rapport de cause à effet.
Voilà.
Satan est toujours une cause qui va être suivie de souffrance, puisque Satan, comme nous le décrit Jésus, Satan est celui qui est meurtrier dès le commencement, hein, c'est Jean 8, 44, et étant meurtrier dès le commencement, il a des moyens, et ces moyens, ce sont le mensonge, et de mensonge de différentes manières.
Question, je dirais, folklorique, excusez-moi. Pourquoi le diable porte-t-il autant de noms ? A-t-il autant de représentations variées ? Est-ce que parce qu'il a des actions différentes, des projets différents, et que suivant le cas, suivant la situation, suivant ce qu'il fait, il se dissimule en fait ? Il change de couleur, il change de forme, et ainsi de suite. Qu'est-ce que vous en pensez là de ce caméléon ?
Je pense que... Curieusement, sur la terre, le diable pourrait être qualifié de quelqu'un de relativement sympathique.
Et pour mieux nous attraper.
C'est-à-dire que le rapport entre les gens et le diable, assez souvent, est un rapport qui n'est pas de crainte. Parce que le diable, justement, donne de la puissance, il ouvre à certaines choses, il fait comprendre, il annonce l'avenir, il va faire des choses. Et ce qui fait que dans différentes cultures, hein, par exemple Asmodée, on le trouve dans la culture juive, hein, dans la culture hébraïque, et dans d'autres. Mais dans différentes cultures, on trouve le diable et finalement on voit quelqu'un qui est assez souvent sollicité. Hein, donc la pluralité des noms est quelque chose, à mon avis, qui montre peut-être cet intérêt, cette ouverture, et le fait que le diable eh bien, certainement, se manifeste de différentes manières.
Alors, je voudrais vous poser une question là. Il est sollicité, mais il y a plusieurs façons de le solliciter. Alors, ça peut être sous l'aspect de quelqu'un de sympa et on peut ne pas savoir. Et puis, il y a aussi des gens qui font exprès, qui veulent être en présence, qui l'appellent, on en reparlera plus tard. Donc là, la sollicitation n'est pas la même quand même.
Oui, oui. Les sollicitations sont variées. Peut-être, je voudrais quand même parler des noms, finir quelque chose sur les noms avant, et dire que la Bible parle du diable, mais diable, diabolos en grec veut dire, vous l'avez dit, diviseur, et on pourrait dire que diable, c'est un peu sa fonction. C'est comme Dieu veut dire puissant, mais en fait, le nom de Dieu, c'est Yahvé. Hein, la loi, en Exode 20, dit que tu n'invoqueras pas le nom de ton de Yahvé, ton Dieu, en vain. Et Yahvé, c'est son nom, et Dieu, c'est sa fonction. Eh bien, le diable, c'est la fonction de Satan. Et Satan divise, Satan est le diviseur, à l'inverse de l'Esprit de Dieu, qui est au contraire celui qui met en communion, celui qui rassemble.
Oui.
Voilà. Satan veut dire adversaire. Et Apollyon, un troisième nom du diable qu'on trouve dans l'Apocalypse, veut dire destructeur. Hein, voilà trois noms pour le diable. Il y a une expression aussi en Ésaïe 14, c'est astre brillant, qui en latin a donné Lucifer.
Hein, ah oui,
Lucifer,
c'est
porteur de lumière.
Oui, oui, oui.
Voilà pour les noms. Alors, sur les sollicitations.
Oui.
Sur les sollicitations, je pense à cette expression de Jésus-Christ dans l'Évangile qui dit à Jacques et à Jean, quand ils voulaient faire descendre la foudre du ciel, le feu du ciel, sur des gens qui disaient des choses fausses, il leur dit « Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. » Donc, je voudrais dire à partir de ça que certainement, ce que nous faisons, ce que nous disons, anime l'esprit. Alors que, logiquement, ça devrait être le contraire. Ça devrait être l'esprit qui nous anime.
Qui nous guide.
C'est-à-dire qu'on devrait choisir la source et du choix de la source, alors faire quelque chose de bien. Alors que quand nous faisons quelque chose de mal, alors nous mettons en œuvre, en mouvement, l'esprit du mal.
Oui, donc en fait, les apôtres qui appelaient le feu du ciel, ça partait d'un bon sentiment. Mais en fait, c'était de la violence et ils se trompaient de porte. En fait.
C'est ça. Hein? Ils se trompaient de porte et de ce fait, ils mettaient en action un esprit qui était mauvais.
Mais ça doit nous arriver souvent.
Eh oui. Eh oui, oui. Et il y a, c'est intéressant de voir dans le Nouveau Testament deux expressions qui sont très, très presque inquiétantes. Hein, en Éphésiens 4, 27, il est dit « Ne donnez pas occasion au diable ». Et on en reparlera peut-être après. Et en 1 Timothée 5, 14, il est dit que les jeunes veuves, par leurs mauvais propos, ont donné occasion à l'adversaire. Alors c'est quand même assez solennel ça.
Oui. Oui, oui.
Et c'est vrai que quand on rentre volontairement et de manière durable dans des mauvaises choses, c'est assez souvent qu'après on n'est pas bien. Mais on ne sait pas pourquoi on n'est pas bien. Peut-être qu'on n'est pas bien parce que justement on ouvre des portes et que l'esprit démoniaque est là et nous fait sentir quelque chose de douloureux, de triste, de pervers, etc.
Sans vouloir faire de l'humour, disons, il y a le souffle. Et si on ouvre les portes, on est au courant d'air. Et ce souffle ne peut ne pas faire du bien.
Hein? Absolument.
L'image tirée des cheveux par les cheveux, mais enfin.
Dans les sollicitations,
oui.
Peut-être je voudrais en préciser quelques-unes de manière assez variée. La première est donc directement ce que nous disons ou ce que nous faisons, alors que ce que nous pensons n'est pas sous l'influence du diable, parce que ce que nous pensons, le diable ne le connaît pas. L'Ancien Testament dit trois fois que seul Dieu sonde les cœurs. Il n'y a que Dieu qui connaisse nos pensées, alors que le diable ne le connaît pas.
Donc, Satan n'a pas autant de pouvoir que ce que l'on pourrait croire, puisqu'il n'est pas capable de le dire, les pensées de l'homme.
C'est ça, il en a énormément.
Ça rassure.
Parce que Satan pourrait nous empêcher de bouger, par exemple.
Oui.
Mais d'abord, ses pouvoirs sont extrêmement réduits par la volonté de Dieu, parce qu'il ne peut rien faire que Dieu ne lui autorise. Ça, il faudra qu'on le voit par la suite.
Oui.
Mais voilà, il ne lit pas dans nos pensées, mettons que cela est le privilège de Dieu.
Oui.
Les sollicitations. Donc, je voudrais maintenant aller un peu plus loin dans différentes formes de sollicitations. Je crois que si on met en premier point le fait de dire ou de faire quelque chose dans lequel on ne pense pas du tout au diable, ça, on va le mettre de côté, mais ça, c'est peut-être, je ne sais pas, 80-85%
bien sûr,
de nos actes. Mmh. Alors, en deuxième point, je dirais qu'il y a toute la confiance qu'on peut mettre dans ce qui n'est pas Dieu. La confiance, par exemple, dans l'horoscope, dans ce que disent les autres, dans finalement une certaine forme de fatalisme, hein, de dire mais moi je suis né, je suis Gémeaux ascendant Balance, et ce qui fait que en fait les planètes et les astres étant inclinés comme ça, alors finalement il est tout à fait normal que mon caractère soit devienne comme ça.
Ou qu'il se produise ceci ou cela.
Et de ce fait-là, il y a un aveuglement personnel qui fait que je suis dans le noir et que je suis le jouet également des puissances diaboliques. C'est-à-dire que par le défaut de la compréhension de ce que Dieu me donne, je suis moi dans l'aveuglement et je suis le jouet des puissances. Ça, c'est un deuxième point. Mettons, c'est de rester dans l'aveuglement. Le troisième point, hein, le premier point étant finalement toute parole étant animée d'un esprit que je ne discerne pas, hein, ce deuxième point étant l'aveuglement, le troisième point, c'est une consultation indirecte des puissances spirituelles. Alors quand je vais...
La préciser, une consultation indirecte.
Indirecte. Quand je vais par exemple me faire lire les lignes de la main, je vais faire tourner les tables, alors celui qui me lit les lignes de la main, il peut très bien être médium. Et donc, moi, je ne suis pas censé savoir en fait que cette personne-là est médium. Mais si je mets ma confiance en fait dans les paroles que me dit cette personne, alors je mets ma confiance dans l'esprit qui est porté par ces paroles. C'est ce que j'appelle une consultation indirecte. Si quelqu'un me dit, par exemple, viens, on va faire tourner les tables, c'est marrant. Alors, il y a pas mal de gens que je connais qui le font faire. Hein, qui
disent que c'est marrant, je ne sais pas s'ils s'excusent, s'ils se cachent, si c'est un alibi ou si c'est une plaisanterie. Et alors là, ça ne va pas pouvoir marcher, à mon avis.
Eh bien, quand... Voilà,
je n'ai pas l'expérience.
Tout à fait,
hein.
Tout à fait, moi non plus, je ne l'ai jamais fait. Mais quand ces gens-là font tourner les tables, alors l'esprit leur donne une puissance... Hein, d'après ce qu'on m'a raconté, ils se prennent les mains, donc ils sont ensemble en communion. Ils sont ensemble pour demander à l'esprit.
Oui,
et de ce fait,
il y a une communion.
Il y a une communion qui les engage. Et il y a souvent un leader qui, lui, est déjà engagé avec l'esprit.
Mmh.
Et donc, l'engagement de ce leader passe aux autres. Et donc là, il y a ce que j'appelle une consultation indirecte, c'est-à-dire que finalement, à mes dépens, je vais être engagé avec l'esprit et ça va se traduire par peut-être des pensées obsessionnelles, par des tristesses, par le fait de voir des choses que je ne devrais pas voir, entendre des choses que je ne devrais pas entendre, voir des choses bouger, entendre des coups dans ma chambre, être réveillé la nuit, subir des choses, par cette consultation indirecte.
Oui. Mais il se peut que la personne en devienne accro s'il y a ce genre de manifestation. Parce qu'ils veulent en savoir toujours davantage, toujours
plus. C'est
ça. Bon, alors, je vous pose quand même une autre question tout de suite. Vous continuerez après. Mais celui qui entend, qui voit la table tourner, qui entend, qui voit des visions ou autre chose, c'est vrai ? Ou c'est dans leur tête ? Ils l'imaginent, ils le créent de toutes pièces.
Ah, pour moi, c'est vrai, absolument.
Ah, pour vous, c'est vrai.
C'est vrai. Parce que, et ce qui est assez étonnant, c'est que la puissance du diable, tout à l'heure je disais que le diable était quelqu'un de sympathique, pour beaucoup de personnes, parce que la puissance du diable est très très souvent invoquée, utilisée par les gens. De mémoire, il me semble que c'est vers la fin, vers le début du 19e siècle que l'interdit de la vie occulte a été donné. Et c'est là où
Ça s'est
on a,
développé là,
et
oui, à
c'est là
fond.
où justement les cercles de spiritisme se sont développés et où on a pu voir par la suite quantité de choses.
Il semblerait que le diable a plusieurs façons et un catalogue aussi gros que celui d'une vente par correspondance pour proposer des choses qui vont intéresser les personnes. Alors on a fait tourner les tables, on a consulté l'horoscope, quels sont les autres moyens qui puissent se mettre à la disposition, que je m'entre guillemets personnellement, de l'individu. Qu'est-ce qu'il propose pour les avoir, pour les attraper? Parce qu'en fait, c'est ça, il essaie de les faire passer de l'autre côté, de les attacher. Là, il divise pas, au contraire, il attire.
Il y a quantité de choses qui sont dans ce catalogue dont vous parlez. Je vais en dire quelques-unes parce que ça serait un peu difficile de toutes les énumérer. Mais par exemple, la lévitation. Hein, on sait, il y a des gravures de, par exemple, Douglas Home, hein, dans les années 1850, est quelqu'un qui fait de la lévitation dans les groupes. Et ça se sait, ça se voit. J'ai rencontré quelqu'un, un enseignant en faculté de théologie, qui a été formé au bouddhisme par un maître il y a passé 14 ans, entre 8 ans et 22 ans. Et il a vu son maître léviter.
Oui.
Donc la lévitation est une puissance qui est donnée par le monde invisible
Il n'y a pas de
aux humains.
trucage.
Il n'y a pas de
Il n'y a
trucage.
pas
Hein,
de
voilà. Alors,
trucage.
mettons que dans les usages assez communs, on va dire que, par exemple, l'enchantement, vous savez, par exemple, ces poupées dans lesquelles on met des
Ah oui,
aiguilles.
d'accord, oui.
Voilà. L'enchantement est un procédé qui est pratiqué relativement souvent. Par exemple, en Afrique, on se protège du sorcier grâce à un sorcier qui est plus puissant. Mais on se place sous la protection d'un démon en
Ben oui,
faisant ça.
qui serait plus
Hein,
puissant.
l'enchantement. Il y a, par exemple, de tout temps des sacrifices d'animaux. Hein, les messes noires dans lesquelles on sacrifie un poulet avec un riz tout à fait particulier, mais les sacrifices humains, par exemple. Hein, on sait dans ces gravures avec les Aztèques, par exemple, hein, qu'ils arrachaient le cœur de l'humain qui était vivant. Hein, c'était quelque chose d'assez terrible, et qu'ils faisaient ça pour qu'il pleuve suffisamment, pour que les récoltes soient bonnes, etc. Donc en fait, c'était, si vous voulez, un rapport indirect, parce que ces gens-là ne savaient certainement pas le rapport aux divinités qu'ils pouvaient avoir, ce rapport aux mauvaises puissances. Ils ne savaient pas du tout qu'il était beaucoup plus simple d'avoir un rapport direct à Dieu et en reconnaissant que Dieu donnait
Oui, plutôt une
ce
prière à
qu'il
Dieu
fallait. Hein?
qui est puissant et qu'on reconnaît puissant, plutôt qu'avoir ses agissements.
Voilà. Aujourd'hui, par exemple, dans les manifestations, on peut noter le fait de faire tourner les tables. Alors, donc, les gens se placent, mettons les deux pieds par terre et les mains sur la table, et ils se
Table.
donnent les mains.
Oui, se touche, pouce à pouce.
Voilà. Et donc, quand c'est le moment, alors la table tourne sans qu'il n'ait rien fait. Il y a des consultations aux esprits avec des lettres qui sont sur la table et qui bougent toutes seules. Avec des verres pleins
Qui se
d'eau qui vont se
déplace.
déplacer, avec ce qu'on appelle l'écriture automatique, où quelqu'un prend un stylo et sans qu'il ne fasse rien, tout à coup il va se mettre à écrire. Et si vous tapez sur Internet écriture automatique, vous allez voir des documents dans lesquels, de toute évidence, la plume du stylo n'a jamais lâché le bord de la feuille, et on le voit. Hein, et les mots sont écrits, mais dans le retour à la ligne, le stylo reste sur la feuille. Donc il y a.
Mais c'est lisible cette écriture.
C'est très lisible.
Ou c'est que des signes.
C'est très lisible.
Ah, c'est lisible.
Ouais, oui, oui. Donc les manifestations sont nombreuses. Par exemple, l'ubiquité. On connaît des gens qui, curieusement, ont manifesté l'ubiquité. On en connaît chez certains qui sont même très connus.
Mais c'est obligatoirement le diable qui donne ce pouvoir ?
Voilà, moi je ne vais pas citer de nom parce que c'est peut-être un peu sensible, mais je pense que c'est... il faut toujours se demander qui est le pourvoyeur de la puissance que nous avons.
Oui, oui, oui. Et les tireuses de cartes aussi, c'est dans le même...
Voilà, les tireuses de cartes.
La boule de cristal.
Oui, oui. Hein, la chiromancie, là, c'est oui. la mancie avec les mains. Hein, il y a la cartomancie, il y a la nécromancie. Hein, le médium qui met en rapport avec les défunts.
Alors ça, c'est le plus fréquent.
Voilà.
En fait, dans leur domaine,
je veux dire. Et donc, en fait, la personne qui va entendre une voix qu'il va reconnaître. Mais rien ne lui dit que la voix qu'il reconnaît, et la voix du défunt. Ça peut très bien être la voix de quelqu'un qui prend la voix du défunt parce qu'il le connaît bien, en fait. Et parce qu'il l'a écouté, parce qu'il sait, il sait le reproduire.
Ou un mauvais esprit qui est capable d'être un bon imitateur.
C'est ce que je disais quand je disais quelqu'un. Vous avez faites bien de le préciser. Alors, donc, voilà différentes...
sollicitations.
Voilà, différentes choses qui sont assez évidentes. Il y a, par exemple, ce qui s'appelle la magie. Et la magie blanche est quelque chose qui prend sa source dans le monde invisible, mais qui est fait pour le bien des gens.
C'est pour ça qu'elle est qualifiée de blanche.
De blanche.
Mais ça aussi, c'est quand même l'œuvre du diable, non ?
Seul celui qui la pratique le sait. C'est à lui de savoir d'où vient de quelle source il puise finalement. Et ce qui se passe à l'intérieur, la magie noire est une magie dont le but est de faire du mal aux autres.
Et la magie noire ?
Voilà, ça a comme but de faire mal aux autres.
Oui. Donc, il y a plusieurs possibilités, sûres et certaines. Alors, je vais vous poser une question personnelle. Hein. Est-ce que vous avez rencontré, vous, le diable ?
Alors, moi, j'ai eu quelques expériences avec des personnes qui ont eu affaire à l'occultisme, et je vais vous en parler de manière très courte. On pourra approfondir par la suite si vous voulez. La première expérience que j'ai eue, c'est une personne qui m'a dit « Je crois que je suis capable de deviner des choses que tout le monde ne devine pas. » Alors, bon, nous, on était dans un groupe d'études bibliques, et je lui ai demandé qu'est-ce qui s'était passé. Et alors elle me dit, j'étais en train de vendre mon produit dans une grande surface. Et je dis bonjour à la dame à qui je vais vendre mon produit. Et je lui dis, comment allez-vous ? Elle me dit, à peu près. Et je m'entends lui répondre, oui, je sais qu'on vous propose un poste dans un pays où les femmes ne sont pas considérées. Et alors cette personne me dit, mais c'est tout à fait vrai, on me propose un poste en Turquie. Mais comment le savez-vous ? Et alors là, j'ai bredouillé quelque chose. J'ai dit, écoutez, j'en sais rien, j'ai une intuition. Bon, entre nous, c'est pas gênant. Et puis elle a continué à essayer de vendre son produit. Alors, je lui ai proposé à cette personne de demander à Dieu au nom de Jésus-Christ si ce don venait de lui. Et elle l'a fait. Et il se trouve que cette personne-là avait l'habitude de se décorporer. Donc le soir, elle était seule dans sa chambre, elle était allongée, et elle se voyait sortir de son lit, en esprit, et elle allait se promener dans
là,
des lieux...
Là, vous êtes tombé sur un cas un peu complexe, là.
Oui, dans des lieux où elle était déjà passée, dans des villes où elle était déjà passée, et elle allait avec plaisir retrouver son chat qui était mort, aller sur les marchés, voir les gens, parler avec eux. Et donc... Quand elle s'est décorporée et qu'elle a rencontré ces gens, elle a posé à Dieu cette question, est-ce que ce que je suis en train de vivre vient de toi ? Et là, elle s'est rendue compte que ces gens qu'elle rencontrait étaient des démons et des adversaires.
Comment s'en est-elle rendu compte.
Elle l'a su.
Elle l'a su.
Elle l'a su. Elle a vu qu'ils étaient adverses. Et de ce fait, elle est venue retrouver son chat et elle a vu que son chat avait les yeux du démon. Et donc, en fait, elle a voilà une expérience qui lui a fait prendre conscience du fait que le monde invisible n'est pas toujours gentil, toujours agréable. Et de ce fait, elle m'a raconté en fait comment sa sœur l'a initiée en mettant un fruit, je ne sais pas si c'était une orange ou enfin un fruit sur l'armoire qu'elle a percé de cure-dents. Et elle a attendu que le fruit pourrisse. Et quand ça a été le moment, elle s'est allongée sur le lit, elle lui a donné la main. Vous voyez toujours cette main de communion, d'association.
On attrape
et
l'autre.
Voilà, on attrape l'autre, on l'initie, on l'emmène, on le conduit. Et cette personne a vu le monde invisible et elle est rentrée en fait, dans cette initiation du monde invisible. Un deuxième exemple.
Mais vous n'avez rien fait pour cette personne ?
Non, pas
sinon prier.
Si, puisqu'en fait, je lui ai dit d'invoquer le nom de Jésus-Christ, oui, ce qu'elle a fait. Et ensuite, on a prié ensemble et elle a signifié en fait qu'elle ne voulait pas ce genre de choses. Elle a fermé la porte.
Deuxième exemple.
Un deuxième exemple, c'est une jeune femme qui a eu des souffrances, mettons familiales, mais qui ne sont pas directement liées à son problème. Et quand elle. Un jour, un ami de ses parents est venu et. Sa mère était médium et lui a fait un rite d'envoûtement. Et donc, ce rite d'envoûtement a fait qu'elle a été malheureuse pendant quelques années, qu'elle a entendu des voix et qu'elle a consulté un psychiatre pour ne plus entendre ses voix. Alors, ses voix se sont estompées, elle s'est convertie pendant ce moment-là et ses voix ont disparu, mais elle est venue me trouver en me demandant ce qu'il en était. Et donc, je lui ai un petit peu expliquer ces choses et donc ce rite d'envoûtement est quelque chose de très important. Si on ouvre la porte aux puissances spirituelles, alors les puissances spirituelles rentrent.
Alors chaque fois j'ai remarqué, il y avait une sœur, un ami de sa mère, dans l'entourage il y a déjà quand même des auxiliaires qui lui arrivent. Donc, mais est-ce que ça peut vous arriver, ou tranquillement comme ça, sans que vous ayez demandé à quelqu'un, que vous ayez des problèmes, des pouvoirs entre guillemets, comme ça qui vous arrivent?
À notre corps défendant, non.
Non.
Mais par contre, je vais vous parler d'un cas où c'est pas à son corps défendant, mais c'est une personne qui s'est quand même fait avoir quelque part, mais ça, on le voit après la pause musicale. Un autre exemple que j'ai vu de très près, c'est celui d'une femme d'une trentaine d'années qui disait être possédée. Alors, imaginez quelqu'un, entre guillemets, tout à fait normal, quelqu'un de très gentil, de très cordial, de très accessible. Bonjour monsieur, je m'appelle un tel, voilà, je fais ça dans la vie, etc. Ah oui. Et pourquoi venez-vous me voir ? Eh bien, parce que, en fait, à un moment donné, mes yeux s'en vont tout seuls. À un moment donné, il faut que j'aille à l'église. Et je vais sur le chemin de l'église et il faut que je revienne. Je ne peux pas continuer à y aller parce que c'est une impossibilité. Mes membres ne me le permettent pas. Donc, il y a quelqu'un en moi qui pilote ma vie, qui pilote mon corps.
Ou qui peut faire barrage suivant la destination.
Et voilà. Et donc ça, c'est une possession. C'est comme si le cœur de mon cœur, je ne sais pas comment l'exprimer, hein, mais l'esprit, hein,
oui.
Ce qui est en fait tout à fait au fond de moi et qui est décisionnaire, ne m'appartient plus parce que quelque part, je l'ai donné. Et donc, alors, qu'est-ce que cette personne avait fait
pour en
arriver là ? Alors, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a demandé l'esprit du parler en langue dans une église particulière. Et elle a reçu quelque chose par les mains, elle a senti qu'elle recevait quelque chose, et l'ayant reçu, après, elle a eu cet ensemble de manifestations. Alors, là, c'est pour ça que tout à l'heure, j'avais proposé quatre choses différentes, quatre sollicitations différentes. Et on pourrait dire que la première, elle est dans ce que nous faisons. La deuxième, elle est dans le fait de rester dans l'aveuglement. La troisième, elle est dans la consultation indirecte. Et la quatrième, elle est dans la demande directe qu'un esprit me donne quelque chose.
Alors là, c'est pour un besoin de s'affirmer, c'est la recherche du pouvoir pour dominer les autres. Pourquoi cette démarche ?
Je crois que les démarches sont très différentes suivant les gens, et vous avez raison d'en citer quelques-unes. On pourrait ajouter, par exemple, la crainte d'être en insécurité. Donc, on s'adresse à un esprit dont on pense qu'il nous mettra en sécurité, mais on ne le connaît pas, cet esprit-là.
Oui, c'est-à-dire que n'importe quelle prière doit être dirigée dans le bon sens, alors,
et oui.
Vous voulez dire.
Oui.
Parce que là, la personne qui a demandé à parler en langue, je pense qu'elle était chrétienne et qu'elle était dans une église chrétienne.
Oui.
Et puis, ce n'est pas Dieu qui l'a recueillie, ce serait Satan.
C'est ça. Et donc, une deuxième motivation, dans le cas précis de cette personne, c'est peut-être de faire comme les autres.
Ah oui, aussi, bien sûr, dans son église, si les autres avaient des dons et qu'elle n'en avait pas, évidemment, ça pouvait la gêner quelque part.
Une troisième motivation est peut-être de ne pas faire comme les autres, de toujours chercher à être différent. Mm-hmm. Alors, si tout le monde est humain, alors soyons fous. Voilà, etc. Des motivations, il y en a énormément et elles sont toutes différentes.
Oui, on n'y pense pas toujours, oui, c'est vrai. Ouais. Oui, oui. Et alors, on arrive où des gens sont complètement possédés, qui ont des crises. Au Moyen-Âge, il y avait des prêtres qui existent toujours. Il y en a un par diocèse, chef dans l'Église catholique, qui est chargé, évidemment, d'exorciser donc des personnes qui seraient possédées. Mais actuellement, quand même, je pense que les églises sont peut-être un peu plus prudentes, parce qu'il ne faudrait pas que ces crises, qui ressemblent souvent à des crises d'hystérie, ne soient pas tout simplement des troubles mentaux. Alors, est-ce que c'est le diable vraiment qui les agite ou est-ce que tout simplement ils sont atteints d'une maladie psychique ?
Je dirais, pour faire très simple, que toute relation au monde démoniaque produit des troubles mentaux. Mais tout trouble mental n'est pas produit par une relation au monde démoniaque.
Voilà, c'est ce que je veux dire, oui.
Voilà. Donc, la relation au monde démoniaque, eh bien, ne peut être... considérée comme certaine que quand la personne dit certainement j'ai eu une relation avec le monde démoniaque ici et là et de telle manière.
Et on peut s'en sortir.
Et on peut s'en sortir. Et donc la question, c'est avec ces différentes sollicitations, quatre, comment fait-on pour s'en sortir ? Alors, premier cas, Jésus dit, vous ne savez de quel esprit vous êtes animé. Donc, premier cas, eh bien, la meilleure manière de ne pas tomber dans une relation au monde démoniaque, c'est de savoir de quel esprit on est animé. Et quand on fait quelque chose, eh bien, de le faire au nom de Jésus-Christ, de le faire avec la présence, la vie, la marque, la qualité de tout ce que Dieu, qu'il soit plus ou moins connu, donne.
Alors, je ne veux pas plaisanter, vous avez averti au début, je vais être l'avocat du diable. C'est bien joli de dire, il faut savoir à quel esprit je me suis confié ou d'où ça vient. Mais il se peut que ce soit le diable aussi qui se déguise très bien et qui s'insinue.
Alors, quand on invoque le Dieu qui sauve, quand on invoque le Dieu absolu, on ne prend pas de risque.
C'est déjà une garantie qui rassure. Ouais, alors.
Voilà. Le diable ne peut pas se déguiser. Quand on invoque Dieu, quand on invoque le Dieu qui nous a créés, quand on l'invoque avec honnêteté, avec justice, avec justesse, avec vérité, sincérité, alors on y est.
Oui, et puis là, c'était un premièrement.
Voilà. Deuxièmement, c'est ne pas rester dans l'aveuglement. Ne pas rester dans l'aveuglement...
Oui, on reprend en fait des sollicitations, là.
C'est ça. Mmh. C'est ça. Ça, ne pas rester dans l'aveuglement, c'est finalement comprendre quelque part que là où on est, c'est noir. Prenons un exemple très, très, très concret. Combien de personnes disent « Moi, je travaille pour me payer mes vacances ». Donc, quand ils sont en travail, ils souffrent. Quand ils sont en vacances, enfin, ils sont dans quelque chose qui leur plaît. Mmh. Donc, leur travail ne leur plaît pas, mais ils travaillent pour les vacances.
Ils le subissent pour avoir les vacances.
Et donc, les vacances, c'est l'échappatoire. Les vacances, c'est le rêve. Les vacances, c'est... Et quand ils vont revenir travailler, ils vont revenir dans la galère. Eh bien, ces gens-là, de manière relativement volontaire, acceptent d'être dans un schéma de vie qui est aberrant. Dieu ne nous a pas maudits dans le travail. Dieu nous appelle à travailler et être satisfait dans ce que nous faisons. Donc ces gens-là restent dans quelque chose de noir, dans quelque chose dans lequel ils sont aveuglés. Et ça, ils peuvent en sortir.
Oui.
Mais par exemple, j'entends souvent les gens me dire, moi je vais au cinéma pour m'échapper. Je vais au cinéma pour être dans le rêve, pour être ailleurs. Je vais faire du footing pour me défouler. Moi, je ne vais pas faire du footing pour me défouler. Moi, je vais faire du footing pour faire du footing. Parce que je n'ai pas besoin de me défouler de mon travail. Mais quand j'étais opticien, je n'avais pas besoin de me défouler de mon travail. De mon travail.
De
je
travail.
Faisais mon travail. J'étais très heureux de faire mon travail. Et après, j'étais
content de l'avoir fait.
Du vélo, du tennis, de la pétanque, etc. Et je ne faisais pas ça pour me défouler. Le problème, c'est que si on pose comme quelque chose de certain que le travail est une malédiction et que en fait il vaudrait mieux être ailleurs, on est dans l'aveuglement et du coup on est le
et
jouet
dans la souffrance
et dans la souffrance et on est le jouet de ces du monde démoniaque. Pour en sortir, il faut sortir de l'aveuglement. Troisième chose, les sollicitations indirectes. Alors je crois que c'est absolument clair qu'il faut se garder de toute sollicitation indirecte, c'est-à-dire en quoi mettons-nous notre confiance? Qui croyons-nous? Quand vous allez voir le médecin, alors si le médecin vous dit que vous avez un cancer, bon ben, vous le croyez. Mais si le médecin vous dit que vous allez mourir, qui est-ce que vous croyez, le médecin ou Dieu? Vous pouvez très bien croire le médecin, mais dire, je crois le médecin, mais il arrivera ce que Dieu aura permis. Et
qui,
c'est là...
Qui peut changer le cours des choses.
Qui peut changer le cours des choses. Et c'est là où, in fine, hein, au fond des choses, c'est à Dieu que je fais confiance et ce n'est pas au médecin. Donc attention aux sollicitations indirectes. Ah, ma voisine m'a dit qu'elle avait invoqué, elle avait mis un petit autel dans sa pièce et que depuis qu'elle avait mis un autel, il y avait des ondes positives et qu'elle se sentait mieux. Bon, oui, mais qu'est-ce qu'elle invoque ?
Elle se trompe elle-même parce qu'elle peut, je suppose, invoquer Saint Machin ou Saint Truc.
Exactement. Exactement.
Alors, c'est la superstition, elle se trompe complètement.
Et oui. Hein? Et donc, attention, quand par exemple, si je suis catholique et que je crois au pouvoir des reliques, hein, la relique de Sainte-Madeleine, Marie-Madeleine à Saint-Maximin, et si je m'approche de la relique et que je pense que Sainte-Marie-Madeleine pourra me secourir, il y a de la superstition, à mon sens, là-dedans. Parce que si Dieu veut me secourir, il n'a pas besoin que je m'approche du crâne de Sainte-Marie-Madeleine.
Non, à la limite, on peut s'approcher de Sainte Marie-Madeleine et je ne suis pas sûr qu'elle soit à la Sainte-Baume.
Voilà.
Mais admettons qu'elle y soit, ce serait plutôt par sa vie de prière, son détachement du monde et ça servirait comme exemple.
Exactement.
Mais là, le crâne ne peut rien faire.
Et donc, comment sortir de ce troisième point? C'est en évitant les sollicitations indirectes. Dans le quatrième, dans les trois premiers points, on aura remarqué. Un premier point, attention à ce que nous faisons. Deuxième point, attention à ne pas rester dans l'ombre, dans l'aveuglement. Et troisième point, attention aux sollicitations indirectes. Je dirais qu'on est toujours dans l'exercice de notre responsabilité. On peut s'éloigner du monde démoniaque. La Bible dit, résistez au diable et il s'enfuira loin de vous. Dans le quatrième point, par contre, quand on a donné la clé de l'appartement à quelqu'un, alors quelqu'un a la clé. Mais moi, je n'ai pas de double. En fait, parce que je lui ai donné la clé au démon. Donc, dans le quatrième point, on voit pour l'exorcisme que c'est quelqu'un d'autre qui doit intervenir. L'exorcisme est fait par quelqu'un d'autre. L'exorcisme est fait par les disciples de Christ, de Jésus-Christ. Il est fait par Paul. Si on regarde comment Jésus a fait pour l'exorcisme, et peut-être qu'il faudra y revenir de manière un tout petit peu précise tout à l'heure, on voit en Matthieu 7, par exemple, pardon, en Matthieu 8, verset 16, que Jésus chasse les esprits par une parole.
Mais c'était Jésus. Donc
par une parole.
Il suffisait peut-être d'une seule parole.
En Actes, au chapitre 16, on voit quelqu'un qui n'est pas Jésus, et on, c'est Paul, hein, Saint Paul, et on voit qu'il est dit au verset 18, Paul, hein, voyant une servante qui avait un esprit de serpent, un esprit de python,
oui.
Il se retourne et il dit à l'esprit, je te commande au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle, et il est dit, à l'heure même, il sortit. Eh bien, voilà comment est-ce que nous avons à faire, et voilà comment est-ce que j'ai fait. Et voilà là où nous devons rester, nous devons commander à l'esprit avec l'autorité de Jésus-Christ de sortir et l'esprit sort.
Ces personnes qui sont possédées volontairement et involontairement manipulées par le diable, qui s'en rendent compte ou qui s'en rendent pas compte, elles peuvent faire appel à l'exorcisme, mais elles ont besoin de se reconstruire certainement, de vider leur maison, faire le ménage. Ça fait penser à un passage de l'évangile, et puis essayer que les démons ne reviennent pas.
Oui. Le fait que le démon parte est quelque chose qui est, ça peut paraître bizarre de le dire comme ça, mais qui est excessivement simple. Le démon, on l'a dit quelques fois, et maintenant on va peut-être l'étayer avec des textes bibliques, ne peut rien faire que Dieu ne lui permette. Alors on lit par exemple à cet effet, dans la lettre de Paul aux Éphésiens, au chapitre 1er, au verset 21, il est dit que Dieu a placé Christ au-dessus de toute principauté, donc les chefs, autorité, puissance, domination et nom qui se nomme. Et donc, Christ est au-dessus. Christ est le Fils de Dieu auquel, finalement, toute puissance bonne, les anges, bonne. Ou mauvaise, les démons, finalement, se doit de référer. Hein, le démon ne peut rien faire. Que Dieu ne l'autorise. Un autre passage, c'est dans la première épître de Pierre, au chapitre 3 et au verset 22, où nous lisons que Jésus-Christ est allé au ciel, hein, c'est l'ascension, et ange et autorité et puissance lui étant soumis. Donc là aussi, on voit ange, autorité, puissance. C'est-à-dire les anges, les esprits que Dieu a créés et qui ne se sont pas révoltés, et les autorités, les puissances, dont l'Épître aux Éphésiens parle beaucoup, étant ces esprits qui se sont révoltés. Dans l'Ancien Testament, c'est un peu pareil. Dans le livre de Job, on voit comment, finalement, Satan n'a pu faire que ce que Dieu lui a demandé.
Oui.
Et puis alors, on voit aussi dans 2 Chroniques 18, un épisode de la vie du roi Achab, celui qui était marié à Jézabel, et de voir comment, parce que Achab voulait que ses prophètes lui disent quelque chose de particulier, alors l'Éternel a permis que des esprits mensongers, donc des démons, sortent et soient cet esprit de mensonge dans la bouche des prophètes d'Akab. Donc c'est assez étonnant, on voit les cieux ouverts, on voit cette assemblée de démons et d'anges qui sont devant Dieu, et on voit Dieu qui dit, ben voilà, Akab voudrait entendre ça, qui est-ce qui va dire par la bouche des prophètes à Akab ce qu'il a envie d'entendre. Et donc on voit un petit peu comment les choses fonctionnent. Et c'est assez saisissant de penser que les démons sont soumis à Dieu. De sorte qu'il ne faut pas avoir peur du démon. Il faut bien comprendre que quand le démon m'attaque, c'est peut-être que Dieu le permet, mais peut-être que moi je l'ai recherché aussi.
Mmh, bien sûr.
Et donc, il faut comprendre en quoi j'ai donné occasion au diable, en quoi j'ai donné occasion à l'adversaire, et de ce fait tirer leçon de tout ce qui s'est passé. C'est un peu ce passage dont vous parliez dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 12 ou 13, qui dit que quand Jésus parle, je crois que c'est peut-être à la fin du chapitre 12, quand finalement le démon est parti, alors la maison est vide et le démon va chercher des démons plus forts et il trouve la maison vide et du coup il peut intégrer la maison, mais l'intégrer parce qu'elle est vide et que parce que la personne n'a pas chercher à se fortifier et, comme vous le disiez, à se reconstruire.
Oui, donc c'est parce que la maison est vide. Je ne comprenais pas très bien pourquoi il revenait à plusieurs. Voilà. Moi, j'ai Luc 11, 24, 26. Bon, c'est pas grave, c'est la même idée qui est présentée.
Absolument.
Donc c'est ça, parce que la maison était vide. Le grand ménage avait été fait, mais il n'y avait rien. On n'avait pas mis de porte solide pour éviter que les démons reviennent.
Donc à la question comment faut-il se
Oui.
reconstruire, la réponse, c'est ce que vous venez de dire, il faut que la maison soit remplie. Qu'est-ce que c'est qu'une maison remplie? Une maison remplie, c'est une maison, plutôt pourquoi utiliser l'image d'une maison remplie? C'est pour proposer aux gens de ne pas être vide, mais d'être rempli de la présence de Dieu. Pour ne pas être l'objet de l'attaque de l'adversaire, il faut être l'objet de la communion douce et agréable avec Dieu. Nous n'avons aucune raison de craindre le monde spirituellement mauvais si nous sommes avec le monde spirituellement bon. Et donc, se reconstruire, c'est comprendre, finalement, discerner toutes les situations dans lesquelles nous avons donné occasion au monde spirituellement mauvais. Ça peut être par le mensonge, ça peut être par l'agressivité, ça peut être par la fuite, ça peut être par la compensation avec l'alcool, avec le sexe, avec l'argent, avec quantité de choses. Et donc, il faut comprendre d'où viennent mes faiblesses pour que je puisse personnellement devenir fort. Il faut que je comprenne comment est-ce que je me suis laissé avoir par le démon, comment est-ce que je suis rentré dans une dynamique qui me fait du mal pour que je ne puisse plus y rentrer. Et donc, être restauré, c'est véritablement tirer profit de ce qui s'est passé, tirer leçon, être conséquent pour pouvoir rentrer dans une démarche d'autonomie, de respect de soi, de force intérieure et de trouver cette force-là pour que ce qui m'est arrivé ne m'arrive plus.
Et pratiquement, vous pouvez dire des,
pratiquement,
donner des pistes.
Ça veut dire que, par exemple, cette jeune femme qui a subi un envoûtement, eh bien, il faut qu'elle comprenne qu'elle n'a pas donné sa confiance à quelqu'un qui lui propose quelque chose.
Oui.
Cette autre femme qui a été initiée par sa sœur, il faut qu'elle comprenne que ce que disent les sœurs, ce n'est pas forcément vrai. Ce n'est pas forcément juste. Cette autre femme, j'ai eu affaire qu'à des femmes, cette autre femme qui a demandé l'esprit de parler en langue, il ne faut pas qu'elle pense que le pasteur dit toujours la vérité. Et donc, il faut qu'elle fasse très attention dans son rapport aux autres et peut-être dans le fait qu'elle est assez rapidement, qu'elle soit assez rapidement sous influence, alors qu'elle devrait être plus mesurée, plus prudente et surtout plus faire confiance à Dieu de manière concrète dans leur vie. Si je ne parle pas en langue, ben je ne parle pas en langue. Hein, et puis peut-être que je peux, moi, réfléchir à ce que c'est que le parler en langue en écoutant l'enregistrement numéro 3 sur les charismes.
Oui, peut-être, bien sûr. Oui. Alors, j'aurais tendance à dire oui, mais donc ce sont des gens plus ou moins faibles qui sont peut-être tentés et qui tombent dans le panneau. Je ne veux pas dire que parce que tous vos exemples désignaient des femmes. Ce n'est pas ma préoccupation, ce n'est pas ça. Et puis je me dis non. Ça peut être quelqu'un aussi de très fort, parce que quelqu'un qui serait très fort spirituellement, ça doit gêner Satan. Et il aurait peut-être bien envie de le tenter, de le faire chuter.
Alors non, pourquoi?
Non.
Parce que...
D'essayer, je dis.
Voilà. C'est-à-dire que si cette personne-là est orgueilleuse, et orgueilleuse, alors oui, peut-être que Dieu permettra à Satan de le faire tomber. Mais si cette personne-là n'est pas orgueilleuse, si elle a déjà jugé l'orgueil, alors dans un sens, il n'y a pas de raison que Dieu permette à Satan de mettre des entraves dans le ministère de quelqu'un qui lui est fidèle. Je crois qu'on comprend bien avec 2 Chroniques 18 et avec l'exemple de Job que la question de l'occultisme est vite réglée. Hein, Dieu donne en fait le Dieu de ce siècle à ceux qui demandent le Dieu de ce siècle.
Oui, mais il y a des gens et des grandes figures spirituelles dans l'Église, hein, généralise, qui ont été embêtés, ennuyés, tracassés, qui ont été souffert par le diable qui essayait de les détourner, évidemment, de leur chemin.
Alors, je crois qu'on ne peut pas l'affirmer. C'est-à-dire qu'on ne peut pas affirmer, premièrement, ce qui s'est passé, deuxièmement, pourquoi ça s'est passé, et troisièmement, qu'est-ce que Dieu a voulu pour ces gens-là. Je crois que, par exemple, j'ai lu dans un livre de quelqu'un que j'estime bien, qu'à un moment donné, il était dans un centre biblique et que Satan l'a obligé à courir vers une falaise pour s'y jeter et mourir. C'est quelqu'un que j'estime beaucoup, c'est quelqu'un dont je vois la foi, la régularité, la conséquence.
Qui a fait ses preuves.
Mais pour moi, il y a quand même quelque chose qui n'est pas juste là-dedans. Parce que je ne vois pas que Satan ait ce pouvoir sur quelqu'un sans que Dieu lui ait permis. Et je ne vois pas comment Dieu permettrait quelque chose comme ça. Je crois qu'il y a une erreur sur les mots que l'on met sur une circonstance. C'est pas Satan. Qu'il se passe quelque chose volontiers, mais je pense que ça correspond plutôt à une situation de fragilité de la personne qui vit ça. Mais je ne suis pas sûr qu'il s'attend derrière.
Oui, mais moi, je ne vous suis pas tout à fait, parce que je pense, c'est vous qui me donnez peut-être une clé, là, en parlant de fragilité. Il se peut que Dieu veut que son héros soit effectivement plus aguerri. On lui donne des épreuves pour qu'il comprenne mieux, peut-être pour qu'il soit moins orgueilleux, peut-être pour qu'il soit plus humble, qu'il soit plus dévoué, qu'il prie davantage, qu'il aime davantage ses proches, et ainsi de suite. Je sais pas, moi je pense ça. D'ailleurs, au début, j'en avais parlé. C'est peut-être une force de souffrir, une façon de souffrir qui est un signal d'alarme qui permet de se remettre sur un chemin qui s'approche plus près de Dieu.
Et en disant ce que vous venez de dire et auquel j'adhère complètement, il est absolument clair que la raison pour laquelle Satan serait intervenu n'est pas que cette personne est en bon état, mais qu'elle est en mauvais état.
Ah oui.
Alors que les gens peut-être disent Satan est intervenu pour contrecarrer l'œuvre de Dieu en tant qu'adversaire.
Là aussi, ce serait possible. Non.
Non. Parce que si Dieu demande à son serviteur de faire blanc,
ah oui, c'est vrai.
Il ne va pas envoyer Satan pour l'empêcher de faire blanc.
Satan ne fait que ce que Dieu lui permet de faire.
Ah, voilà.
On le perd de vue, ça, souvent.
Voilà.
Ce rapport Dieu-Satan.
Et donc, ce serviteur n'a pas dit « Satan m'a obligé à faire quelque chose et a mis en évidence ma fragilité ». C'est pour ça que je partage complètement ce que vous avez dit,
mais
je ne partage pas le fait qu'il dise simplement « Satan m'a attaqué comme si lui n'y était pour rien, finalement ».
Il y a quand même quelqu'un de très important, je dirais, qui a subi aussi des tentations, et même trois d'un coup. C'est, vous voyez qui je veux dire, Jésus. Alors, qu'est-ce que cette histoire? Pourquoi Jésus avait-il besoin de tenter? Quel est l'intérêt pour nous, pour la suite, pour notre spiritualité, de savoir que Jésus a été tenté? Bon, il a résisté. Est-ce que c'est ça uniquement la leçon?
C'est intéressant de voir que dans la vie de Jésus, Jésus nous apparaît, le Fils de Dieu nous apparaît vraiment comme étant pleinement homme. Si on regarde dans l'évangile de Luc, par exemple, on voit qu'il naît en tant qu'homme, de manière tout à fait normale. Ses parents sont là, ils le font circoncire comme tous les juifs. Et puis on voit Luc 2, verset 40, l'enfant croissait et se fortifiait et était rempli de sagesse. Il est juste dit, la faveur de Dieu était sur lui. Alors, il était avec ses parents, il a 12 ans, et on voit au verset 52 qu'il avançait en sagesse et en stature et en faveur auprès de Dieu et auprès des hommes. Donc, on voit que l'adolescent Jésus n'est pas quelqu'un auquel les difficultés sont épargnées. Il a connu le progrès, il a appris les choses. Et puis après, on voit la fin du ministère de Jean-Baptiste et on voit le commencement du ministère de Jésus où au chapitre 3 et au verset 22, l'Esprit Saint vient sur lui sous forme corporelle comme une colombe. Il s'agit à mon sens du fait que Jésus est ici montré comme devenant le Christ, celui qui est oint, celui qui est appelé à être le roi. Et donc au chapitre 4, dans cette circonstance, dans de laquelle vous me parlez, il est dit Jésus plein de l'Esprit Saint. Donc il y a un ministère qui commence où Jésus finalement a été appelé à rentrer dans un ministère, et donc il y a toute la présence divine qui est là, plein de l'Esprit Saint, et c'est peut-être quelque chose d'un peu compliqué pour nous. Et il est mené par l'Esprit dans le désert, étant tenté par le diable pendant 40 jours. Et on voit à la fin de cette petite histoire, hein, dans ces 12 versets, au verset 13, « Et ayant accompli toute épreuve, le diable se retira d'auprès de Jésus pour un temps. » Comme si finalement, au début du ministère, il fallait que l'homme, Jésus, soit mis à l'épreuve de ce qui est mauvais pour faire ce qui est bon, de ce qui est faux pour faire ce qui est vrai.
C'est pour assumer son incarnation.
Je crois.
Voilà.
Je crois. C'est finalement un peu le passage obligé.
Mais adapté quand même, parce que moi, Satan m'a jamais proposé d'être le roi du monde ou le plus riche, ou si je mets d'une falaise, les gens viendront me chercher.
Eh bien, je pense
Dieu.
Je pense que ça nous arrive à tous. Mais c'est, notre histoire n'est pas décrite dans les évangiles.
Ah,
et je pense que ces trois choses qui sont proposées à Jésus, hein, dit à cette pierre qu'elle devienne du pain, jette-toi du haut du temple et puis tu verras que les anges te ramasseront, et puis prosterne-toi devant moi et je te donnerai les royaumes. Je crois que ces trois épreuves que subit Jésus sont certainement les trois principes du monde qui sont montrés dans l'épître de Jean, hein, où il dit la convoitise de la chair, des yeux et l'orgueil de la vie, hein, trois principes du monde, et les trois choses que donnait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il était bon à manger, agréable à voir, et il rendait intelligent. Et je crois que nous sommes tous, nous, concernés par cette énergie d'erreur, par ces choses fausses qui nous sont proposées, et que finalement, dans notre ministère, Dieu nous appelle à faire la différence entre le faux et le vrai. Hein, je prends deux, trois exemples.
Oui.
La richesse ne rend pas heureux. Hein, elle facilite les choses, mais ce qui rend heureux, c'est l'amour. Et en général, les gens riches sont des gens très seuls, parce que quand on est avec quelqu'un de riche, on a toujours envie qu'il nous donne de l'argent.
Oui.
Voilà. Un autre exemple, c'est que la sexualité ne rend pas heureux. Ce qui rend heureux, c'est l'amour. Et on voit comme après environ 1900 ans, environ oui, 1950 ans de vie chrétienne bridée, alors on fait pas place maintenant depuis les années 70-80 à une vie débridée, mais les gens qui sont débridés ne sont pas plus heureux, parce que ce qui rend heureux, c'est l'amour. Et donc l'argent, le sexe, le pouvoir, ce sont aussi ces choses qui sont directement liées au principe du monde. Et je crois que nous passons tous à l'épreuve de ces choses, et que quelque part, il faut que nous comprenions bien à faire la différence entre ce qui est faux et ce qui est vrai.
Jésus quand même a été amené, ça paraît presque facile, avec un geste, avec une parole, à chasser le démon. C'est cité plusieurs fois dans les quatre évangiles. Hein. C'était donc la manifestation de Dieu qui intervenait là.
L'homme, Jésus, est parfaitement Dieu, et Dieu fait homme est aussi parfaitement homme. Alors, les théologiens chrétiens ont tous eu des difficultés avec ça, de savoir comment ces deux conditions pouvaient être représentées en une seule. Alors, personnellement, j'accepte ces deux choses, et je vois que Dieu, Jésus, a appris, mais que l'homme, Jésus, a été très radical.
Oui.
Hein, il a fait les choses qu'il avait à faire. Ça ne veut pas dire que ça n'a pas été difficile pour lui. Hein, donc ça peut avoir été difficile. Hein. Il a appris l'obéissance, nous dit Hébreux 5, par les choses qu'il a souffertes.
Oui.
Donc voilà, je crois que dans ces épreuves de Jésus, il y a quelque chose qui est un peu générique de l'homme et auquel nous avons à faire attention.
Non, il y a plusieurs exemples, on n'a peut-être pas le temps de les citer tous, mais il y en a un qui marque aussi les esprits, c'est quand les mauvais esprits se retrouvent dans un troupeau de porcs qui vont se jeter, évidemment, en haut d'une falaise qui tombe dans la mer. Alors c'est quand même curieux ce processus.
Je pense que cet exemple, qui est un exemple parmi tant d'autres, si on oui. regarde par exemple dans l'évangile de Marc, qui est le plus dense et qui raconte les exploits, enfin les actes de Jésus, il commence très rapidement à voir des gens qui sont démoniaques. Et il guérit des démons, il guérit les personnes, il chasse les démons assez fréquemment. Et donc l'exemple de cet homme qui s'appelle Légion est un exemple comme un autre. Je crois qu'il faut noter que cet homme-là n'est pas en Israël. Hein, il est sur le bord du lac de Galilée, qui est du côté de la... Alors je voudrais pas dire de bêtises, de la Transjordanie. Hein, vous voyez, oui. du côté en fait de la du désert. Aujourd'hui, est-ce que c'est le désert du Golan? Je ne situe pas très très bien. Et donc, en fait, il y avait des ports. Et peut-être que l'intention de l'évangéliste, quand il raconte cette histoire, c'est de montrer que les esprits vont dans ce qui est mauvais, puisque le port était interdit.
Oui.
Et donc, de fait, le porc que ces gens-là n'auraient pas dû cultiver, voilà. avoir comme animaux, les porcs vont se jeter dans le lac. Et de ce fait, voilà comment est-ce que non seulement Jésus guérit le démoniaque, mais empêche qu'il y ait quelque chose qui soit contraire à la loi.
À la loi, oui. Mais ceux qui élevaient les porcs, ils ne devaient pas être juifs.
C'est ça, c'était pour d'autres. C'était à l'étranger, oui.
C'était pour d'autres. Bon.
Voilà.
Alors, on peut se poser la question aussi, mais on l'a quand même, le devenir de Satan. Alors là, je crois qu'il y a quand même l'Apocalypse qui va nous ouvrir des portes, des pistes.
Oui, il y a un passage déjà dans l'Évangile selon Matthieu, hein, au chapitre 25 et au verset 41, où Jésus va dire « Allez-vous-en maudits dans le feu éternel qui est préparé pour le diable et ses anges. » Qui est préparé pour le diable et ses anges. Alors je crois que l'enfer, ou la géhenne, ou le feu éternel, les temps de feu et de soufre, c'est le lieu de la demeure des esprits qui se sont révoltés contre Dieu.
Mais le savent-ils, ces mauvais esprits?
Je pense qu'ils le savent, puisqu'ils nous voient, ils nous entendent, ils lisent, ils savent qu'ils vont être jugés.
Alors, c'est pas la peine d'être méchant, je dirais, comme on dit dans le langage courant.
C'est-à-dire qu'ils ont été méchants.
Ils ont été méchants.
Et apparemment, il y a une rédemption pour les humains, mais oui. Il n'y a pas de rédemption pour les esprits.
Oui, alors,
apparemment.
Ils peuvent continuer.
Alors, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'ils continuent, je ne sais pas comment est fait un esprit. Hein, peut-être que l'esprit n'est pas si... comment dire, il est plus puissant que l'homme, puisqu'il est dit dans le psaume 8... le Fils de l'homme, c'est-à-dire le Christ, a été fait de peu inférieur à un ange.
Oui.
C'est repris dans l'Épître aux Hébreux. Les anges sont puissants. Et donc, l'ange est puissant, mais quelque part, peut-être qu'il n'a pas cette possibilité de se repentir ou de... Vous voyez, hein, peut-être que l'homme est fait à l'image de Dieu, mais l'ange n'est pas fait à l'image de Dieu. C'est possible.
Oui, mais alors ça a l'air d'être... prévu à l'avance, définitif. Et puis, bon, alors l'Apocalypse, quand même, on pense que Satan aura disparu de la face de la terre. Il va être jeté dans les temps de feu.
Alors, je crois que l'Apocalypse, qui est la révélation du projet de oui. Dieu de manière générale, y compris de son projet politique à l'égard d'Israël et des nations, alors je pense que Satan sera encore utilisé avec l'Antichrist, notamment.
Ouais.
Au chapitre 12, on voit que Satan sera précipité sur la terre, mais ses démons avec lui, hein, c'est bien spécifié.
Pour se mettre à l'heure, pour travailler.
Alors je crois que Satan sera donc utilisé pour que le monde ait vraiment le roi qu'il aura demandé, c'est-à-dire l'Antichrist. Satan sert à quelque chose. Et si on avait une conclusion à donner à cette réflexion sur l'occultisme, je dirais, respectons le monde invisible, ne le craignons pas, mais n'ayant rien à faire avec lui. Le monde invisible, c'est le monde de la connaissance du mal, et Dieu ne nous appelle pas à faire la connaissance du mal, je pense qu'il nous appelle, il nous conduira à comprendre ce que nous avons à comprendre, mais je ne crois pas du tout qu'il nous appelle à faire cette connaissance. Surtout, il ne faut pas invoquer d'esprit, surtout il ne faut pas chercher à avoir ce que Dieu ne nous donne pas. Mmh. J'entends quantité de personnes me dire « mais comme j'aimerais que mes parents décédés me parlent ». Et je suis tenté d'invoquer les esprits. Oui, Mais l'invocation des esprits est interdite dans la Bible, hein, on le trouve déjà dans la loi en Deutéronome 18. Et on aimerait que des esprits nous facilitent la relation à Dieu. Oui, mais 1 Timothée 2, verset 4 nous dit qu'il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, qui est l'homme Jésus-Christ.
C'est Jésus-Christ.
Donc on va prier par Jésus-Christ, mais on va prier Dieu. Donc je crois que tout ce qui est montré ici à l'égard de ce monde invisible est suffisamment, voilà, peut-être précis et devrait nous encourager à lire la Bible en étant soumis à cette, en étant sensible à cette réalité et puis soumis aussi à ce que Dieu nous révèle quant au monde invisible.